dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
On peut considérer que la transition énergétique occidentale est en train de générer la destruction et un véritable écocide majeur sur des puits de carbone, des réservoirs de biodiversité qui n'ont aucune autre équivalence actuellement sur Terre. C'est un peuple, une ethnie qui volontairement reste en retrait du monde dans lequel on évolue, qui ne leur convient pas. Et donc, on voit arriver une entreprise française subventionnée par l'État français qui s'accapare leurs terres et vont détruire des milliers d'hectares et détruire leur vie, enfin leur monde. Et ça, c'est inadmissible. Le fait que les médias ne souhaitent pas en parler, par exemple, je vois mal un média tel que Le Monde, par exemple, ou L'Humanité, ou je ne sais quel autre grand journal qui a pignon sur rue, refuser une pub dans ses pages pour le dernier SUV électrique de Toyota ou de je ne sais quel groupe automobile. Donc en fait, il y a le problème. C'est qu'en fait, il y a un conflit d'intérêts majeur en fait, dans la presse.
Passionné de nature depuis son enfance, Vincent Romera est un photographe français qui parcourt le monde afin d'analyser, de mesurer et d'anticiper les conséquences de l'activité humaine sur l'environnement.
Ce qui fait de lui un écologue.
Il est aujourd'hui responsable de projet au sein de l'ONG française Yumi.
Son métier l'amène à constater l'impact négatif de l'homme sur la nature et sur l'espèce humaine.
Nous le retrouvons entre deux aéroports où, indigné, il revient du Sulawesi en Indonésie.
Il tient à témoigner du constat qu'il indigne, à savoir qu'un écocide majeur est en train de se perpétrer en Indonésie au profit de l'Occident, sous prétexte de transition écologique et dans un silence médiatique assourdissant.
Aujourd'hui, dans Dissonance, il sera question de déforestation,
de disparition des peuples premiers,
de l'extraction outrancière et écocidaire du nickel,
et du saccage de la planète au profit des plus riches,
et dont les pots cassés sont payés par les peuples du tiers-monde et leur environnement naturel. Transition énergétique occidentale et écocide majeur en Indonésie.
Avec Vincent Romera, lanceur d'alerte sur Dissonance.
Bonjour. Là, je vais partir en Colombie sur des projets de suivi de parcelles de reforestation et d'accompagnement de communautés locales à des transitions vers des agricultures plus respectueuses de l'environnement, type sylvopastoralisme et agro-sylvopastoralisme. Et mon travail là-dedans, ça va être d'évaluer du coup la biodiversité sur les fermes et les territoires de ces communautés locales.
D'accord. Et tu as été ailleurs aussi ?
Oui, j'ai été ailleurs. J'ai été à Madagascar, toujours pour l'ONG française UMI. Nous, on accompagne en fait d'autres ONG partenaires qui sont situées dans différents pays et on finance en partie leurs projets. Et il y a aussi un appui technique sur le terrain qui correspond à mon travail. Donc je vais sur les sites d'intervention où on finance des projets pour réaliser des évaluations de la biodiversité et réfléchir avec les partenaires, avec les communautés locales, à comment mieux protéger ce qu'il y a comme biodiversité, mieux protéger tout ce qui va être enjeu aussi des services écosystémiques. Donc services écosystémiques, c'est-à-dire ce que représente en captation de carbone, par exemple, une forêt, en microclimat, la gestion de la ressource en eau, la gestion aussi en fait des ressources utilisées par les hommes, hein, telles que par exemple les stocks de poissons. Ça peut aussi concerner par exemple des plans de chasse au Bénin. Voilà, donc là pour l'instant, je suis allé en mission à Madagascar, au Bénin, au Nicaragua, au Cambodge, et là je reviens d'Indonésie.
Avant de revenir à l'Indonésie, avec l'émission, qu'est-ce qui t'a conduit de ce petit bout de Sud-Aveyron jusqu'à ce grand bout du monde-là ?
Eh bien, c'est une rencontre à Sainte-Afrique même, avec Aurélie Calmet, qui est illustratrice scientifique et illustratrice de terrain, carnétiste. Et donc, elle avait déjà participé à des expéditions avec une ONG qui s'appelle Nature Évolution. J'ai rencontré Aurélie et on a bien accroché. Et en fait, elle m'a dit, mais ton profil d'ornithologue peut intéresser en fait l'ONG avec qui je suis parti. Ça pourrait marcher, quoi. Et donc, j'ai contacté Nature Évolution et je suis parti avec eux en 2017 à Madagascar. Premier séjour, on va dire, à l'étranger long terme. Où j'étais co-responsable des inventaires scientifiques pour les oiseaux sur une expédition de 6 semaines dans le massif très reculé du Makai, dans le sud, centre-sud, on va dire, de Madagascar. Et donc, moi, je suis resté en fait 9 mois là-bas. Je suis arrivé avant pour me former et je suis parti bien après la mission. Et j'ai un peu pris une claque, comme on dit. Ouais. J'ai pris une bonne claque de voir qu'en fait, toutes les ONG qui bossent là-bas, enfin, pas toutes, mais une grande partie, en fait, sont là juste pour mettre 2-3 straps sur des hémorragies qu'on peut même pas définir, tellement c'est horrible. Et en fait, au lieu d'attaquer le problème à la racine, et par exemple... tenter d'avoir des réflexions avec les communautés pour réfléchir à de nouvelles méthodes de production agricole, à des nouveaux systèmes de reboisement ou ce genre de choses, et bien en fait c'est de l'urgentisme, si je ne m'abuse, ouais. Et qu'en fait c'est pas très productif, quoi. Et donc à mon retour en France, j'ai été abordé par mon directeur actuel, Jean-Marc, qui est fondateur et responsable du développement de l'ONG UMI maintenant. C'est une contraction pour Human and Biodiversity. En fait, le leitmotiv de l'association, c'est agir pour la biodiversité et les hommes. Donc vraiment, le but de cet asso, c'est ça, c'est d'aider des communautés locales qui souhaitent protéger leur environnement. Donc en envoyant de l'argent, en finançant tout un tas d'actions qui peuvent paraître décousues si on regarde de loin, parce qu'on va financer autant en fait des salaires d'infirmières, de sages-femmes, d'instituteurs et institutrices. On va financer des réfections par exemple d'écoles, mais on finance aussi du reboisement, on finance aussi des rangers, des éco-rangers, on va dire, donc qui sont issus des communautés locales. On finance plein de choses différentes. En fait, chez UMI, j'ai trouvé vraiment cette volonté d'accompagner sur le long terme et d'agir en fait à la racine du problème.
Et c'est UMI qui t'a envoyé en Indonésie ? Si oui, pourquoi au départ ?
Oui, c'est UMI qui m'a envoyé en Indonésie. Et à la base, je suis parti pour être responsable scientifique sur des expéditions. Des expéditions sur des zones reculées qui ne sont pas encore inventoriées, où potentiellement il y a des nouvelles espèces à découvrir. Et donc j'étais censé, on va dire, chapeauter des équipes de scientifiques et de chercheurs indonésiens et internationaux.
C'est là que tu es rentré petit à petit en contact avec ce problème incroyable du nickel ?
Oui, c'est ça. Il se trouve que l'Indonésie est un pays assez protectionniste vis-à-vis de son patrimoine naturel et archéologique. Et en fait, l'équivalent du CNRS là-bas, le BRIN, B-R-I-N, est ultra protecteur. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas l'ONG pour laquelle je travaille qui le dit, c'est tous les chercheurs qui travaillent en Indonésie et qui demande à ce que justement le gouvernement relâche la pression sur les ONG et les programmes de recherche. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le gouvernement interdit et ou expulse des ONG régulièrement. Par exemple, Greenpeace, là, y a 3 personnes qui sont emprisonnées en Indonésie. Elles ont été emprisonnées en août suite justement à une délation, on va dire, publique d'un nouveau bail amphithéotique de 199 années, wow, délivré par le gouvernement indonésien à des entreprises chinoises pour l'extraction du charbon. Donc voilà, il y a vraiment en fait un gros conflit d'intérêts entre le gouvernement et la production financière via la destruction de l'environnement. Et en fait, toutes les ONG, tous les chercheurs qui souhaitent acter pour la protection de l'environnement se retrouvent confrontés à de grandes difficultés, de très grandes difficultés, notamment pour avoir des permis, des autorisations d'échantillonnage, de prospection, ce genre de choses. Donc nous, on a été un peu bloqués pour ça. Alors du coup, on a fait un peu des pieds et des mains, comme on dit, à droite à gauche. On a insisté longuement pendant plusieurs mois. On s'est rapproché finalement d'une université locale en Sulawesi, où du coup, on intervient avec un partenaire. Et donc là, on a réussi à avoir un contrat d'engagement entre une ONG partenaire et l'université. Et comme l'université est un organisme de recherche, eh bien, de fait, nous avions enfin des autorisations d'aller sur le terrain et de procéder à des inventaires de la faune et de la flore.
Transition énergétique occidentale et écocide majeur en Indonésie.
Avec Vincent Romera, lanceur d'alerte sur dissonance.
Et c'est en allant sur le terrain que tu as fait cette découverte incroyable sur l'utilisation du nickel et un écocide, quoi.
Oui, oui, oui. En fait, ça, quand on arrive à... Donc, la zone d'intervention est située en Sulawesi, donc l'Indonésie c'est quand même un immense pays, on ne se rend pas bien compte sur la carte, mais ça fait presque 6000 km d'est en ouest, c'est 17 500 îles, c'est le plus gros archipel de la planète, c'est 285 millions d'habitants, 700 ethnies et autant de langues, et donc la Sulawesi est positionnée dans la partie centrale de l'archipel. Et donc c'est cette île qui ressemble à un espèce de K tout biscornu, qui a vraiment une forme très particulière. Et donc, quand on arrive sur l'île de Sulawesi, et particulièrement en Sulawesi du Sud-Est, la branche, du coup, on va dire le pied droit du cap, cette zone est en fait mitée, même en avion, en fait, on le voit, hein, en arrivant en avion, on voit tout de suite, depuis le hublot, qu'il y a d'immenses trous, en fait, orange, de la terre mise à nu, sur des surfaces qui sont très impressionnantes depuis un avion, au milieu d'une forêt primaire parmi les plus importantes de la planète. On est sur des foyers, des bastions de biodiversité qui sont actuellement évalués comme parmi les plus importants au niveau planétaire. Vraiment. Il y a une nouvelle publication qui est sortie là, pas plus tard qu'en juin dernier, qui nomme les forêts de plaine et les forêts de montagne de Sulawesi comme parmi les 10 plus importants écosystèmes de la planète à préserver à tout prix. Parce que là, en fait, il y a une biodiversité qui est irrécupérable, on dit, si elle est détruite. Il n'y a aucune équivalence. Et c'est pareil pour les fonds marins. On est aussi dans le triangle de corail, donc c'est là où il y a la plus grande diversité de corail de toute la planète. Voilà, on est vraiment sur un joyau de biodiversité et un hotspot, vraiment un des plus gros hotspots de biodiversité de la planète.
Et pour son malheur, ce Sulawesi est riche, le sous-sol est riche en nickel, c'est ça ?
Oui, alors le nickel, il est extrait dans les sols ultramafiques, on appelle ça. Donc c'est une formation géologique qui se trouve que en zone tropicale. Et en fait, il y a très 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 peu de grandes étendues de sols ultramafiques. Les deux plus grandes sont la Sulawesi, avec l'archipel d'Halmahera, qui est du coup situé légèrement au nord-est de l'île de Sulawesi, qui est toujours en Indonésie. Et il y a la Nouvelle-Calédonie.
Ah, et oui. Française.
Française. Et c'est, ça a aussi encore fait la une cette année plusieurs fois avec le conflit du gouvernement et les indépendantistes kanak, parce qu'il y a aussi, là aussi, encore une fois, cette industrie de la mine et particulièrement du nickel génère des quantités d'argent telles que il y a beaucoup de conflits autour de cette activité. Et donc, voilà, donc il y a vraiment ces deux foyers principaux mondiaux de production de nickel que sont donc les sous-sols de Sulawesi, Halmahera en Indonésie et la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est assez récent parce qu'en fait, jusqu'alors, c'était la Russie qui était leader mondial avec un énorme site sidérurgique en Sibérie, où là, ce sont des mines de fond. Ce sont des mines qui sont situées à 800 mètres de fond, moins 1000. Et donc, en fait, c'est très, très coûteux d'extraire ce minerai brut. C'est très, très coûteux. Mmh. Donc, l'Indonésie a des gisements qu'on appelle les gisements de surface. Donc, c'est-à-dire qu'il y a juste à enlever, si on peut dire. Il faut juste enlever la forêt primaire. Mmh. Et en dessous de la forêt primaire, là, on a une couche qui va faire entre 10 et 20 mètres, suivant les endroits, qui est exploitable. Là, on a du minerai brut de nickel, qui a des teneurs assez faibles, hein. On est sur des teneurs vraiment très faibles de nickel, mais c'est suffisant en fait pour pouvoir le raffiner donc dans des hauts fourneaux avec différents processus pour les différents produits finaux.
Oui, parce que les produits finaux, ce sont les batteries électriques de nos voitures électriques, donc pour que l'Europe puisse se rouler propre, on fait des massacres ailleurs. Des massacres au niveau de la végétation, des arbres, des humains aussi.
Oui, c'est ça le problème en fait, c'est que le nickel est utilisé donc à 80% pour l'acier inoxydable.
Pas que.
Ouais, l'acier inoxydable reste quand même le plus gros produit demandé dans le monde avec une incorporation du nickel assez importante. Donc là, on mélange du minerai de fer, enfin du fer avec du nickel. C'est plus des raffineries, là, ce sont des métallurgies. Et donc, c'est vraiment la grande part de la production, c'est ça. Mais depuis maintenant une bonne décennie, on va dire, il y a cette nécessité, cette volonté de l'Occident d'aller vers une transition du parc automobile vers des voitures donc électriques. Et donc pour ça, en fait, pour des batteries qui soient plus puissantes, plus performantes, le nickel est un des produits qui est utilisé pour la production de la batterie. Et donc là, on a 20% maintenant de la production mondiale du nickel qui est dédié aux batteries. La courbe est en train d'augmenter, les prévisions sont de l'ordre de 26 à 30% d'ici 5 à 6 ans. Mais on restera quand même bien en deçà de ce qui est assigné à l'acier inoxydable. Mais le problème, c'est que comme avec cette transition énergétique voulue par l'Occident, le nickel est devenu ce qu'on appelle un métal critique. Un métal critique, c'est-à-dire que face au monopole qu'avaient les Chinois sur l'industrie indonésienne du nickel, parce qu'en fait ils avaient tout raflé à l'époque, dès 2010 ils étaient sur place, ils ont acheté toutes les concessions minières, ils ont mis en place tous les premiers smelters, un smelter c'est un haut fourneau, et c'est eux qui ont pris possession vraiment du marché. Et comme les Occidentaux étaient à la traîne, et bien maintenant, ce sont même les États qui subventionnent massivement en fait, ces filières d'approvisionnement en nickel pour les sécuriser et devenir moins dépendants en fait, du transit en Chine. Parce que là, jusqu'à maintenant, quasiment tout transitait par la Chine. Tout le nickel légèrement enrichi est envoyé en Chine et transformé là-bas. Maintenant, il y a vraiment des usines de production de batteries qui commencent à voir le jour en Indonésie. Enfin, il y a vraiment une volonté de garder en fait la main sur la production et la transformation dans le pays. Ce qui s'entend, puisque du coup, la valeur ajoutée est bien supérieure. Mais ce qui se passe, c'est que les États et des grandes boîtes comme Tesla, comme Volkswagen, comme Renault, et tous les grands groupes automobiles investissent massivement, là on parle de centaines de millions d'euros ou de milliards d'euros, de dollars d'investissement annuel. C'est des sommes qui sont vraiment phénoménales. Et donc cet argent sert à détruire des forêts primaires qui n'ont aucune équivalence sur Terre. Et non seulement des forêts primaires, mais également des récifs coralliens dont on a parlé juste avant, qui sont aussi parmi les plus importants de la planète. Donc on peut considérer que la transition énergétique occidentale est en train de générer la destruction et un véritable écocide majeur sur des puits de carbone, des réservoirs de biodiversité qui n'ont aucune autre équivalence actuellement sur Terre. Et donc tout ça est subventionné en partie par de l'argent public. Par exemple, si on prend ce qui se passe à Halmahera, donc le deuxième archipel qui concentre pas mal de mines de nickel en plus de la Sulawesi, ou Eramet, donc société française, je crois que c'est la plus grosse société minière française, a une concession. Il y a un projet là-bas avec, je crois que leur partenaire est japonais, si je ne me trompe pas. Et donc là, l'État français investit 500 millions d'euros dans le projet d'Eramet pour sécuriser sa filière d'approvisionnement en nickel. Et donc ça engendre un écocide majeur, des déplacements de population, puisqu'il y a accaparement des terres. Et là, en plus, ça concerne également un peuple dit non contacté. Je n'aime pas trop la formulation. Mais donc, c'est un peuple, une ethnie qui volontairement reste en retrait du monde dans lequel on évolue, qui ne leur convient pas. Et donc, bah là, on voit arriver une entreprise française subventionnée par l'État français qui s'accapare leurs terres et vont détruire des milliers d'hectares et détruire leur vie, enfin leur monde. Et ça, c'est inadmissible.
Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Nous avons vaincu nos frères, nous avons pillé leurs terres. Nous nous sommes déployés, abattus des millions d'arbres, sans remords ni palabres, des forêts entières de papier. Pour l'Empire nous travaillons, nous nous avilissons, pour quelques bouts de pain. Et pour lui nous croisons le fer, comme nos parents naguère, comme nos enfants demain. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Nous nous sommes trouvés un dieu d'or noir et de feu, de bronze et de papier. Nous lui avons dédié des temples, sacrifié pour l'exemple ceux qui n'avaient pas de papier. Nous avons, quand vint l'hiver, écrit sur des billets verts que Dieu protège l'Empire. Jusqu'aux épines des roses, donner un prix à chaque chose, même à l'air que l'on respire. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Tout ce que nous avons conquis, tout ce que nous avons bâti, sur les ruines de nos pères. Ce royaume si fragile, géant aux pieds d'argile, redeviendra poussière. Soldats, un jour soudain, notre papier ne vaut plus rien, c'est tout un empire qui éclate. Nos montagnes de billets, nos tours, nos villes, nos palais, vulgaires châteaux de cartes. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. ainsi l'homme devint animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier, ainsi l'homme devint animal, troqua son âme contre du papier.
Transition énergétique occidentale et écocide majeur en Indonésie.
Avec Vincent Romera, lanceur d'alerte sur dissonance.
Est-ce que de ça, de ce problème, de cet écocide, on en parle en Indonésie, je veux dire, des ONG locales ou...
Les politiques se gardent bien d'aborder ce sujet. C'est très corrompu, c'est très dangereux. Il y a quelques ONG qui prennent des risques majeurs, notamment, ça on peut les citer parce qu'ils sont connus de tous là-bas et toutes. Ça va être Walhi par exemple. Walhi, ils sont représentants des Amis de la Terre en Indonésie. Et eux, ils font un gros travail d'accompagnement au niveau juridique avec les villages et les communautés qui sont impactées par les projets de mines. Donc ils ont des avocats, ils étudient les lois, ils vont en procès contre des mines, enfin ils font un boulot qui est vraiment, vraiment super. Jatam aussi, c'est une autre ONG locale indonésienne qui fait le même travail. Et Puspaham, c'est aussi une autre ONG qui reste aussi pareil dans le combat, on va dire, juridique et législatif, en se positionnant aux côtés des gens qui voient leur environnement se faire détruire, leur eau potable disparaître, tous leurs moyens en fait de subsistance qui sont détruits par l'industrie minière, quoi.
Et quand tu es revenu, Vincent, tu as alerté les médias, tu as trouvé de l'écho. Alors il y a les médias alternatifs, Mediapart, tout ça, mais les médias classiques.
Eh bien, j'ai été très déçu. J'ai contacté de très nombreux médias. J'ai eu soit pas de réponse, soit des réponses négatives. Il y a Reporter qui a bien voulu qu'on publie quelque chose ensemble. Mais encore une fois, ça a été décevant, je dois dire. L'article a été beaucoup édulcoré. De nombreuses données ont été supprimées. Et donc en fait il y a beaucoup de zones qui restent complètement dans l'ombre dans cette industrie du nickel et les impacts que ça a actuellement en Sulawesi et dans quelques décennies si ça continue comme ça dans toute l'Asie du Sud-Est et bien au-delà sûrement.
Tu peux nous soulever le voile sur quelques-unes de ces zones d'ombre hein?
Oui, bien sûr, avec plaisir. par exemple, jamais personne n'a publié de chiffres sur la totalité des concessions minières qui ont déjà été accordées par le ministère de l'énergie et des ressources minières, qu'on appelle le SDM, oui, en Indonésie. Donc ce sont eux qui ont le pouvoir d'autoriser un exploitant à ouvrir ce qu'on appelle un IUP. C'est donc un acronyme qui désigne une concession minière. Et donc pour les IUP, on appelle ça, donc les concessions minières de nickel, en Indonésie, actuellement, il y a plus de 920 000 hectares qui sont déjà vendus, on va dire. Les droits d'exploitation sont officiellement entérinés. C'est en phase, du coup, c'est 920 000 hectares, et des bananes, hein, parce que ça n'arrête pas à 920, c'est 926 quelque chose, je crois. Donc ça, en fait, ce sont des territoires, des forêts primaires, hein, dans la quasi-totalité des cas, qui sont sous une épée de Damoclès, comme ça. Et du jour au lendemain, en fait, on peut venir raser intégralement ces forêts primaires jusqu'à la roche-mère. Parce que du coup, on ne parle pas juste, comme par exemple, ce qui est déjà un scandale, hein, on est bien d'accord, mais par exemple, l'industrie de l'huile de palme va décaper la forêt, mais pas le sous-sol. J'entends par là, même si c'est très polluant, très impactant, et que c'est déjà une aberration de raser de la forêt pour planter des palmiers à huile, on est bien d'accord là-dessus, et que c'est déjà un scandale, en plus, la mine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décape sur 20 à 30 mètres de fond, et après, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. Ces sols ultramafiques renferment des polluants lourds, des métaux lourds, parmi les plus dangereux qui existent dans le tableau des éléments chimiques. Vraiment. Il y a du cadmium, il y a du mercure, il y a de l'arsenic. Potentiellement il peut y avoir du chrome hexavalent. Ce sont des polluants extrêmement dangereux pour l'environnement, extrêmement dangereux pour la santé humaine. On n'a quasiment pas de retour sur ce que ça peut avoir quand c'est relargué comme ça massivement dans l'environnement. En fait, les ingénieurs miniers et les spécialistes vraiment des problématiques de mines disent que ces éléments sont contenus dans ce qu'on appelle l'encaissant. L'encaissant, c'est ce qui accompagne en fait le minerai. La mine, l'objectif, c'est de creuser une masse de sol. Et en fait, il y a le minerai, mais il y a aussi tout ce qui va avec autour. Et tout ce qui va avec autour, dans les sols ultramafiques, bien souvent, il y a énormément de métaux lourds. Ça va dépendre des localisations, de la géologie plus fine du sol ultramafique, mais globalement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métaux lourds, et dont des métaux lourds qui sont très, très, très dangereux.
Et ces encaissants, Vincent, ça va vers la mer ?
Alors oui, c'est ça le problème de fond en Indonésie, c'est qu'en fait, il existe des textes de loi qui sont censés encadrer l'exploitation minière, mais ils ne sont pas appliqués. Par exemple, il y a un article qui dit qu'une exploitation minière ne peut pas se faire à moins de 100 mètres d'une zone littorale maritime, de 100 mètres d'un lac ou d'une rivière ou d'une source. Dans les faits, ça n'est absolument pas mis en place. Il existe bon nombre de mines où en fait le sol est décaissé, décapé sur des mètres et des mètres et des dizaines de mètres par endroit à quelques mètres de la plage. Et en fait, on est sur des climats tropicaux. Même on est sur la zone tropicale, donc il y a des moussons qui sont très 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 importantes, un lessivage du sol qui est phénoménal, les cumuls de précipitations là-bas sont considérables, hein. Suivant les zones, ça peut passer 2005, 3000, 4000 mm par an, donc on peut imaginer un sol décapé comme ça, mis à nu, quand on va avoir des pluies comme ça, lourdes, très intenses, et eh bien en fait le sol est lessivé, et donc toute la poussière, toute la terre chargée, du coup, bien souvent en métaux lourds, va s'écouler dans les rivières, dans les fleuves, dans les océans, et à terme va détruire les écosystèmes aquatiques d'eau douce, mais aussi marins. J'ai eu pas la chance, mais j'ai eu l'occasion de longer des concessions minières qui sont situées, ça c'est encore assez incroyable, qui sont situées en fait dans une zone marine protégée, ouais. Oui, reconnue internationalement. C'est une zone marine protégée qui est enregistrée officiellement dans la base de données internationale qui centralise toutes les aires protégées de la planète. Et donc là, il y a des mines qui viennent jusqu'à la plage. Et là, sur des dizaines de kilomètres linéaires, le récif corallien est intégralement détruit. Donc j'ai essayé de faire des images sous-marines à ces endroits-là avec une petite caméra et j'ai pas pu. En fait, c'est-à-dire que on rentre dans l'eau et en fait je voyais plus ma main. C'est complètement orange. On baigne dans un jus. On peut pas parler de mer ou d'océan. Hein. C'est complètement opaque, orange. On voit rien. Le récif est complètement noyé sous les sédiments, asphyxié. Les communautés de pêcheurs qui vivent le long de cette côte, parce qu'il y en a encore plein, ce sont des gens qui sont issus du groupe ethnique qu'on appelle les Bajo, qui sont à la base des nomades de la mer. Ils déplacent leur maison en fonction des stocks de poissons et tout. Enfin, ils ont vraiment une façon de vivre qui est 100% liée à la mer. Enfin, je veux dire, ces gens-là, on leur enlève la mer, ils vont mourir. Enfin, y a pas d'autre alternative. C'est vraiment leur vie. Leur vie.
C'est ce qui va se passer, Vincent, non ? S'ils n'ont plus rien à manger, enfin, si les animaux,
c'est,
les poissons...
C'est déjà en train de se passer, en fait. C'est dramatique. C'est déjà en train de se passer. Il y a des témoignages où les gens disent, en fait, on n'a plus de poissons. Ils n'ont plus de poissons, donc les gens mangent des coquillages, les coquillages en question. Un chercheur avec qui j'ai collaboré, du coup, en Indonésie, me l'a dit, hein, j'ai travaillé avec lui, c'est pas un truc que j'ai lu. Il a prélevé ces coquillages. Il a fait des dosages écotoxicologiques dessus pour savoir ce qu'il y avait dedans. Il y a des doses de cadmium qui sont 37 fois supérieures au seuil autorisé dans un écosystème marin. Et dans cette même baie, donc qui est toujours l'air protégé, hein, dont on parle depuis tout à l'heure, qui est une zone marine protégée, il y a aussi des taux de mercure apparemment qui sont exponentiels, enfin qui sont très 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 anormaux. La donnée chiffrée n'existe pas malheureusement. Je pense que, voilà, encore une fois, c'est très compliqué de parler de ce sujet. Très peu de gens en parlent. Il y a des laboratoires français qui font de l'écotoxicologie là-bas depuis 15 ans.
Ils n'en parlent pas non plus ?
Non, je les ai contactés, ils ne veulent pas en parler. Ils refusent de communiquer les résultats. Ils refusent même de communiquer les résultats à leur partenaire indonésien, le chercheur en question avec qui j'ai pu discuter et collaborer pendant plusieurs semaines. Voilà, c'est très, très compliqué. C'est un sujet qui fait peur à beaucoup de gens. Moi, je pense que le fait que les médias ne souhaitent pas en parler, par exemple, je vois mal un média tel que Le Monde, par exemple, ou L'Humanité, ou je ne sais quel autre grand journal qui a pignon sur rue, refuser une pub dans ses pages pour le dernier SUV électrique de Toyota ou de je ne sais quel groupe automobile. Donc en fait, il y a le problème. C'est qu'en fait, il y a un conflit d'intérêts majeur en fait, dans la presse.
Est-ce que UMI est toujours accepté en Indonésie, vu la dénonciation que toi tu fais?
Nous, on a cette chance de ne pas avoir de représentants là-bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'équipe siglée UMI là-bas. Donc en fait, les risques qu'on prend, ils sont minimes. C'est moi qui les prends d'ailleurs hein, quand je suis sur le terrain. Mais là, en fait, on peut se permettre de dénoncer ça parce qu'on n'est pas sur place. L'Indonésie, je ne sais pas si je vais y retourner rapidement. Honnêtement, ça a été assez difficile pour moi comme mission parce que justement, on est face à un tel écocide. Enfin, moi, j'avais jamais vu un truc pareil.
Et on se sent impuissant aussi, Vincent, non, quelque part. Enfin,
Ah, oui, des fois, on a un peu envie de tout casser, je dois dire. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça que ben, on essaie de faire des pieds et des mains là, depuis maintenant plusieurs mois au niveau de la presse, des médias, pour qu'il y ait un truc qui sorte. Parce que c'est pas possible de laisser ça comme ça, c'est pas possible. Et là, donc je me rends en Colombie là, dans les prochains jours. Et je serai à Cali. Il y a la COP 16, biodiversité.
Et tu vas pouvoir y intervenir, oui, mais non.
Et ben officiellement non.
Non, bien
Parce
sûr,
que du coup,
mais.
j'avais pas de, on n'avait même pas d'accréditation. Et en fait, j'ai réussi à avoir une accréditation via Mighty Earth, donc ONG américano-française. En tout cas, ils ont une branche française. Eux, ils avaient un stand, ils ont un événement programmé. Donc, ils sont accréditeurs, on va dire. Et donc, j'ai demandé une accréditation via leur structure. Et ils ont réussi à en avoir une. Donc, là, je suis accrédité à aller sur tous les événements de la COP, partout. Y compris dans les zones restrictives, on va dire, où il va y avoir des politiques, où il va y avoir des décideurs. Et donc j'ai regardé la programmation de la COP. Donc c'est une COP biodiversité, on n'est pas sur les COP climat,
Oui,
donc c'est
d'accord.
différent. Donc c'est la COP 16 et non pas 29, je crois que maintenant c'est 29, les COP climat. J'avoue que j'ai assez peu de respect pour ce type d'événement, honnêtement. Je n'estime pas vraiment ce genre d'événement. Mais voilà, c'est un concours de circonstances. Il se trouve que l'ONG partenaire en Colombie est basée à Cali. Et que du coup, la COP se passe à Cali. Donc voilà, c'est. Sachant que je reviens de 6 mois en Indonésie où j'ai vu tout ça et que je suis remonté un peu comme une pendule, on va dire, mon objectif, ça va être de mettre sur le tapis le problème nickel et l'écocide. J'insiste vraiment sur ça. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai contacté la plupart des rédactions. C'est en disant, à mon humble avis, je crois que ce qui se passe en Sulawesi, c'est l'écocide principal, l'écocide majeur actuel dans le monde ou un des pires. Franchement, je n'arrive pas à voir quelle autre industrie avec autant de dégâts sur une zone si grande et en même temps restreinte, puisqu'on est sur des îles. Enfin, genre, c'est vraiment un contexte qui est tout à fait particulier. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent comme catastrophe naturelle annoncée, enfin, qui est déjà en cours, mais qui va avoir des impacts phénoménaux en fait, à plus ou moins court ou moyen terme. Enfin.
Tu parles d'écocide ou de forêts malmenées, des populations déplacées, on pense à l'Amazonie, mais ça n'a rien à voir, c'est bien pire, c'est ça?
Bah, c'est bien pire, oui et non. Enfin, comment dire? L'Amazonie, c'est évidemment scandaleux ce qui se passe là-bas depuis maintenant plusieurs décennies. Et c'est difficile en fait de comparer ce genre de choses. Mais là où je trouve que c'est vraiment très très grave ce qui se passe, c'est que c'est vraiment donc la destruction d'écosystèmes forestiers pour des siècles, quoi. Enfin, le fait de détruire la forêt, la couche qu'on peut dire arable, enfin, où il y a de la matière organique, le topsoil, hein, en anglais on dit, le fait d'enlever ça et de descendre encore plusieurs dizaines de mètres sur des milliers d'hectares, des dizaines de milliers d'hectares et des centaines de milliers d'hectares. En fait, derrière, il n'y a absolument rien qui peut repousser, mais rien du tout. Rien du tout. Et il n'y a aucun travaux en fait, de réhabilitation de sites miniers en Indonésie qui est mis en place. Quasiment aucun. De toute façon, à l'échelle mondiale, c'est moins de 1%. Ça, c'est des chiffres qui viennent d'une organisation qui s'appelle Sistext, qui est la seule association française qui est spécialiste de l'après-mine. Et donc, c'est leur directrice et ingénieur minier qui m'a dit ça lors d'une réunion qu'on a pu avoir. Elle nous a dit que moins de 1% des sites miniers de la planète étaient réhabilités. Et c'est pour ça qu'en fait, l'industrie de la mine est toujours rentable. C'est parce qu'en fait, ils ne payent pas pour les dégâts qu'ils font. Et donc, ce qui se passe en Indonésie, eh bien, c'est typiquement un cas d'école du char d'assaut mine, j'ai envie de dire, quoi. Enfin, ils détruisent des choses inestimables et il n'y a absolument aucune contribution pour limiter ces impacts.
Si on n'utilise pas les énergies fossiles, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme énergie alors?
Vaste débat. Ça, c'est un peu la question piège, j'ai envie de dire. En fait, on parle de sobriété déjà depuis quand même quelques années, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. En tout cas, nos sociétés occidentales ne sont pas prêtes à la sobriété dans l'état actuel des choses. Et les énergies fossiles sont vraiment destructrices et produisent beaucoup trop d'émissions de CO2. Donc il faut effectivement trouver une alternative, une solution. Moi, ce qui me vient en tête, après avoir passé ces mois en Indonésie, en Sulawesi particulièrement, et être confronté en fait tout le temps à ces mines, parce qu'elles sont omniprésentes dans le paysage, enfin, tout le monde bosse dans les mines, enfin, c'est incroyable, hein, c'est vraiment un écosystème mine, quoi. Et en fait, je me suis dit, punaise, mais l'Europe, l'Union européenne, a voté en 2023 une loi qui s'appelle EUDR et qui résulte en fait d'un moratoire sur l'importation des produits issus de la déforestation en zone tropicale. Ça concerne l'huile de palme, le café, le cacao et le caoutchouc. Je me demande s'il n'y en a pas un cinquième, mais en tout cas, il y a ces quatre-là, de sûr. Tout produit donc issu de ces quatre productions primaires ayant généré de la déforestation après décembre 2020 ne peut pas être importé en Europe. C'est interdit. Évidemment, c'est très compliqué à surveiller toutes ces filières et c'est en cours. C'est d'ailleurs toujours pas appliqué à 100%. Loin de là, mais il y a des structures qui se mettent sur le cas, il y a des ONG qui se montent, il y a des entreprises privées avec des chercheurs, beaucoup beaucoup de cartographes, des gens qui bossent sur l'imagerie satellite, qui vont surveiller des concessions d'huile de palme par exemple en Indonésie et qui vont dire: Ah, là, ça c'est illégal, vous venez de défricher tant d'hectares cette année pour augmenter votre surface, niet, pénalité. Donc, il y a ça qui a été mis en place. C'est le début, c'est pas encore très efficace, mais on espère que ça va le devenir, ou en tout cas que ça le sera plus au fur et à mesure des semaines, des mois, des années à venir. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est la même chose pour le nickel. Le nickel et les produits dérivés, acier inoxydable et batterie. Parce que, en fait, on est vraiment sur une filière, comme on le disait, de ce qu'on appelle les métaux critiques. Et il y a une demande qui est extrêmement forte et qui ne cesse de progresser. Et il faut absolument maintenant légiférer sur l'importation de ces produits afin de forcer en fait les États producteurs à faire appliquer leur propre législation sur les mines. Parce que, comme on le disait, l'argent généré est tellement important qu'en fait les dirigeants ne font rien pour protéger leur population, ne font rien pour protéger leur territoire. Donc ils font de l'argent maintenant, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Les gens en fait n'auront plus rien, ils auront plus de terre, ils auront plus de ressources marines, il n'y aura plus de poissons, il n'y aura plus de coraux. Enfin, genre, on va droit dans le mur, quoi. Enfin, c'est assez dingue ce qui se passe. Et l'Occident a une part de responsabilité majeure en fait là-dedans, vraiment. Donc il faut absolument qu'il y ait un moratoire qui soit mis en place par l'Union européenne. Ce serait un bon début. Jusqu'à maintenant, ça a été quand même l'Union européenne qui a montré la voie sur certaines prises de position, certaines nouvelles législations, comme la loi EUDR. Ça, par exemple, en Amérique du Nord, ça n'existe pas. C'est pas suffisant, on est bien d'accord. Ça reste très très insuffisant de ce qu'il faudrait pouvoir faire. Mais c'est un début. Un moratoire sur le nickel, ça sauvera pas les forêts primaires de Sulawesi et d'Halmahera, bien sûr, mais ça pourrait grandement en fait réduire les impacts. On peut pas stopper cette filière du jour au lendemain. C'est un rouleau compresseur d'une puissance sans équivalent. On parle de l'industrie de la mine. Il n'y a pas d'équivalent en fait au niveau planétaire. L'huile de palme à côté, en fait, ils sont peu puissants. C'est vraiment les mines, ça fait partie des trucs les plus puissants de la planète en termes d'entreprises, de filières. Donc on peut pas les stopper. Par contre, on peut les embêter.
Et qui c'est qui peut exiger ou imposer qu'il y ait un moratoire? Est-ce que l'ONU, par exemple, c'est de son ressort, ça?
Je ne suis pas sûr que l'ONU ait la capacité. Honnêtement, je ne sais pas.
C'est pas de son ressort. Ils n'ont pas un droit de regard là-dessus.
Je pense pas.
Non, même pas.
Je pense pas, mais je suis vraiment pas sûr. Ce serait à vérifier. Honnêtement, je sais pas. Par contre, c'est des groupes de pression au niveau de la Commission européenne qui peuvent avoir ce pouvoir-là, des groupes de lobbying en fait. Comme par exemple Claire, comment elle s'appelle, la fondatrice et directrice de Bloom, qui a réussi à faire de nouvelles législations sur la pêche et la protection des ressources halieutiques en Europe. Et elle, du coup, c'est en faisant du lobbying pendant des années, des années, des années. Claire Nouvian, je crois. Donc voilà, c'est vers ce type de travail, en fait, qu'il faut s'orienter. Et si des politiques, des députés, des élus participent, c'est encore mieux. Parce que les groupes de pression des ONG sont toujours beaucoup moins puissants que ceux des entreprises privées, et notamment du secteur minier. Hein, parce que, comme on l'a dit, c'est vraiment le secteur le plus puissant qui existe. Donc voilà, il y a quand même il y a beaucoup de boulot. C'est pas, malheureusement, je ne pense pas que ce soit cette année qu'un moratoire sur l'importation du nickel puisse se faire. Ce serait évidemment un de mes vœux les plus chers, mais ça paraît complètement aberrant d'espérer ce genre de choses. Mais on ne baisse pas les bras. On espère que plus de gens, plus d'acteurs, plus d'ONG, plus de politiques vont s'accaparer le sujet. Plus de médias, on espère aussi qu'ils diffusent vraiment en fait le fond du problème, parce que ce qui a été mis sur des pages ou sur des sites internet ou en vidéo, ça concerne qu'un pourcentage infime en fait du problème. Tout ce qui est destruction des récifs coralliens, tout ça en fait n'est pas abordé. Très très peu de gens en ont parlé, voire en fait personne. Je crois que j'ai fouillé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup les publications sur le nickel qui sont sorties dans les 5 dernières années, et il ne me semble pas avoir vu une seule fois un article qui traite de la destruction des récifs coralliens. Alors que un récif corallien, on sait maintenant toutes et tous quelle valeur ça a au niveau du stockage, de la production d'oxygène, de la production des stocks de poissons, de la régulation en fait, ça a un rôle sur la régulation du climat aussi. On est vraiment sur tout est interconnecté, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, et là on perd des zones qui sont d'une priorité absolue.
Transition énergétique occidentale et écocide majeur en Indonésie.
Avec Vincent Romera, lanceur d'alerte sur dissonance.
Alors, on voit des chiffres dans les médias. Le WWF dit que depuis les années 70, on a perdu 7 espèces d'animaux sauvages sur 10, etc. Mais on ne parle pas de ce problème de nickel qui est lié à la disparition aussi de tout un tas d'espèces, animales, végétales.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Pour citer un exemple, donc début août, avec des collaborateurs indonésiens et une collaboratrice française, on a monté une petite expédition scientifique sur une zone humide qui est très isolée. C'est 2 jours de 4x4 dans des pistes pas possibles pour rallier la zone. Et cette zone humide, c'est une zone humide temporaire. C'est un lac de plus de 100 hectares qui fait jusqu'à 30 mètres de fond en période de saison des pluies et qui va devenir une steppe sans une seule goutte d'eau en période sèche. Donc on est vraiment sur des battements en fait, d'eau qui sont assez dingues et un écosystème qui est extrême pour les organismes vivants qui y vivent. Puisque du coup, on passe d'un lac complètement immergé pendant 9 mois à un truc absolument à sec, sans eau, pendant 3 à 4 mois de l'année. Et donc là, on a trouvé un poisson qui, a priori, serait une espèce non décrite. Elle est actuellement en cours d'analyse. Et donc, on verra dans les prochains mois ce que les analyses ADN nous disent. Mais potentiellement, c'est une espèce donc nouvelle et une espèce donc strictement endémique de cette petite zone humide qui est perdue dans le fin fond de la Sulawesi du Sud-Est. Mais cette zone humide est intégralement comprise
dans un périmètre
de concession minière pour le nickel. La zone humide fait, le lac fait donc une centaine d'hectares. Le bassin versant donc, que j'ai cartographié suivant les courbes de niveau et tout, fait 4200 hectares. Sur les 4200 hectares, il y a plus de 2400 hectares qui sont inclus dans la concession minière. Donc si on ne fait rien, si rien n'est fait, cette zone humide va disparaître et toutes les espèces qui s'y trouvent vont disparaître à jamais, parce qu'elles sont endémiques pour certaines.
Oh, tu restes optimiste ?
C'est parfois difficile. faut avoir le moral. Et j'ai cette chance que ma colère me pousse à faire plus à chaque fois. Donc ça va, je reste... confiant, optimiste, non, mais en tout cas déterminé.
Il y a sur la page du site de l'émission une vidéo que tu viens de réaliser et qui dénonce et qui démontre ce que tu viens d'évoquer.
Oui.
C'est toi qui l'as réalisé avec tes drones
Oui, c'est ça. C'est ça, le drone de l'association. Et du coup, ouais, des rushs, on va dire, vidéo mis bout à bout, qui sont assez choquants, avec des images voilà, de littoral... avec l'eau qui rougit, qui est tout orange
ou noir
suivant si c'est le long d'une centrale à charbon. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a aussi c'est la double déforestation, on appelle ça dans le milieu. C'est qu'en fait, donc il y a la déforestation du minerai de nickel.
Et après, ils traitent le minerai sur place, c'est ça.
C'est pour ça qu'il y a les centrales à charbon.
Oui, exactement. En fait, jusqu'en 2014, la quasi-totalité du minerai brut était exportée vers la Chine. Et depuis, en fait, l'Indonésie a mis un embargo sur les exportations. Le minerai doit être à minima enrichi à une étape genre de raffinage de base. En Indonésie, on est exporté. Donc, ils font du ferro-nickel et du nickel de classe 1 et 2, par exemple. Et donc, pour ça, ce sont des RKEF, donc c'est Rotatory Electronic Furnace, quelque chose comme ça. Du coup, c'est des... au fourneau rotatif qui monte à 1800 degrés. Donc les fours en question font un smelter, donc un haut fourneau, c'est 500 mètres de long. C'est complètement démentiel. On est sur des ordres de grandeur en fait qu'on a du mal à imaginer en image mentale, on n'a pas d'équivalent en fait. En Europe, tout ce type d'industrie en fait n'existe plus. Ça a tout été délocalisé justement dans les pays dits en développement. Et donc on n'a plus ces images en fait de ce que ça représente un site industriel de cette taille et qui a cet impact. Oui, juste une petite chose, c'est qu'en fait la double déforestation, ça concerne aussi l'île de Bornéo. On est dans le secteur. Sulawesi, du coup, on a dit que c'était Indonésie centrale. Et Bornéo, c'est la grande île qui est située à l'est.
Ouais, qu'on connaît plus, enfin dont on entend plus parler.
Oui, parce qu'il y a les orang-outans, les fameux orang-outans, avec l'huile de palme. Ces images qui ont fait le tour du monde il y a maintenant quelques années déjà, où on voit une femelle orang-outan qui attaque une pelleteuse. Des images choc, vraiment incroyables. Et donc, en fait, le charbon qui est brûlé dans les centrales thermiques en Indonésie, à Halmahera et en Sulawesi pour le nickel, c'est tout est extrait de gisements de surface à Bornéo. Donc en fait, on rase aussi des forêts primaires à Bornéo pour prendre du charbon. C'est du charbon en fait qui est de très mauvaise qualité. Il peut pas être vendu sur le marché international. Sa capacité énergétique est trop mauvaise. Ça émet en fait trop de CO2 pour l'énergie que ça produit. Et donc, ce minerai, enfin ce charbon de très mauvaise qualité, ce charbon brut, lourd, est cramé en fait dans les centrales thermiques au charbon qui fleurissent franchement comme un champ de jonquilles au printemps sur le Larzac. Enfin, c'est complètement dingue. Et donc, on parle de millions de tonnes consommées chaque année pour une plateforme de transformation. Et donc voilà. Donc il y a la déforestation numéro 1 pour l'extraction du minerai. Après, il y a l'extraction numéro 2 pour l'extraction du charbon lourd. Le charbon lourd après est transporté par vraquier. Donc c'est des énormes bateaux qui consomment du fuel lourd. Jusqu'en Sulawesi et à Halmahera pour alimenter les centrales à charbon qui rejettent massivement du coup des polluants dans des quantités qui sont démentielles. Le charbon se retrouve aussi perdu en partie dans les écosystèmes autour, on peut le voir sur les images satellites, enfin pas satellites mais au drone. Voilà, enfin, l'environnement est complètement détruit et empoisonné. On peut clairement dire par exemple que dans la vidéo, l'estuaire qui est filmé avec cette immense centrale à charbon, que cet endroit-là est empoisonné. La plage est grise, alors que c'est censé être du sable blanc. Et les gens continuent de pêcher. Les gens continuent
à vivre là.
Oui, bien sûr. Il y a un tout petit village de pêcheurs là au bout. Oui, et ils vivent là. Ils vivent là. Moi, j'ai vu des gars ramasser, comme on peut voir sur les estrans, par exemple, à marée basse en France, où les gars sont là avec des espèces de râteaux, derrière une nasse pour ramasser les palourdes et ces trucs-là. Et ben, ils font ça. Ils font ça et ils consomment en fait des organismes filtreurs qui filtrent en fait une eau qui est polluée à des degrés dont on peut même pas imaginer ce qu'il y a dans cette flotte. Et personne ne fait d'analyse, hein, évidemment.
Une note d'espoir.
Oui, il y a quand même pas mal de gens qui continuent de lutter contre ça et qui lutteront jusqu'au bout. J'ai rencontré pas mal de gens qui sont voilà, des convaincus, des acharnés, et il en faut. Et en tout cas, je pense que ces gens-là, et nous aussi chez UMI, on ne lâchera pas l'affaire, on ira jusqu'au bout, et tant que ça n'aura pas été mis sur la table à la hauteur à laquelle on estime nécessaire.
Merci Vincent.
Avec plaisir.
Vous trouverez sur la page internet de Dissonance divers liens complétant cette émission et notamment la vidéo évoquée par Vincent Romera.
Il y avait un jardin qu'on appelait la Terre.
Salut
et fraternité.
Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres. Avec un lit de mousse pour y faire l'amour. Et un petit ruisseau roulant sans une vague. Venez le rafraîchir et poursuivez son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison toutes portes ouvertes?
que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la, la la la.